7h50, notre invitée ce matin, Barbara Cambé-Petitjean, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes coprésidente de la cabane juridique qui apporte un soutien aux migrants de Calais dans le nord de la France. La semaine dernière, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France pour le traitement dégradant d'un migrant afghan de 12 ans lors du démantèlement du camp de la Lande à Calais. C'était en 2016. C'est votre association avec le GISTI, ONG spécialisée aussi dans l'aide juridique, qui a mené ce dossier. Racontez-nous de quoi il s'agit exactement.
Alors, donc la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France, notamment pour ne pas avoir respecté une ordonnance du juge des enfants d'un placement provisoire de Jamil Rahn, qui vivait dans la jungle à ce moment-là depuis environ 5 mois. Et qui, au moment de l'expulsion, s'est vu donc expulsé de la cabane dans laquelle il vivait et forcé d'être déplacé dans la zone nord de la jungle. La France a été condamnée, notamment au regard de l'article 3 de la Convention pour traitement dégradant, pour ne pas avoir respecté la décision du juge des enfants.
C'est-à-dire que ce jeune Afghan était arrivé tout seul dans le camp de la jungle ?
Alors, voilà, Jamil Rahn était arrivé en septembre 2015 en France. Il est arrivé à Calais ce même mois et il a survécu dans la jungle, donc dans des conditions absolument indignes et totalement précaires, notamment au regard de sa condition d'enfant, d'autant plus vulnérable devant les risques de violence qui existent toujours dans la jungle.
Alors la CEDH estime que cet enfant a vécu plusieurs mois dans le bidonville, dans un environnement totalement inadapté à sa condition d'enfant, dans une précarité inacceptable, c'est ce que vous venez de nous dire. Concrètement, ça veut dire quoi exactement ?
Ça veut dire que du coup, les conditions de vie sont très précaires. Les accès à la nourriture étaient réduits, puisqu'à l'époque, l'État distribuait via une association uniquement 2500 repas, à une époque où la population avait atteint pratiquement 10 000 personnes sur le camp. Donc la nourriture était principalement délivrée par les associations. Les accès aux sanitaires et aux douches étaient très limités. Les accès aux soins également. Et puis du coup, tout ça se passait quand même dans une ambiance absolument violente, une répression policière très forte de la part de la commune. De l'État.
Quelles sont les obligations normalement de l'État, d'un gouvernement européen dans ce cas avec les enfants ?
Alors vis-à-vis de la protection de l'enfant, il est clair que l'État français se doit de les protéger, quel qu'il soit. Donc la question de savoir si l'enfant est étranger ou pas n'a pas à être posée. Et la protection de l'enfant se relève bien des départements et non pas en termes de mise en place.
Mais ça veut dire quoi la protection de l'enfant ? Alors concrètement, qu'est-ce que...
Donc concrètement, l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, se doit de mettre à l'abri un mineur avant son évaluation, puis il doit être évalué quand la minorité n'est pas forcément avérée. Et puis après ça, la minorité avérée, il est pris en charge, hébergé, nourri, scolarisé, soigné.
Alors, est-ce que vous avez des nouvelles de cet enfant aujourd'hui ?
Oui, bien sûr. Il vit en Angleterre avec sa tutrice qui a entamé une procédure d'adoption.
Très bien. C'est au moins une bonne nouvelle. Vous évoquez le cas des tests pour déterminer la minorité d'un enfant, parce que...
Oui.
Dans le cas d'un enfant de 11 ou 12 ans, c'est assez évident. Oui. Parfois, il y a des adolescents plus âgés. Alors, distinguer un adolescent de 17 ans d'un jeune adulte, c'est parfois plus difficile. Comment ça se passe au niveau de l'État et en quoi est-ce que c'est éventuellement...
Alors, la question de l'évaluation, elle est un peu plus complexe que ça, parce qu'il faut bien savoir qu'en fait, chaque département a la charge de la protection de l'enfant et donc de l'évaluation. Et là-dessus, il n'y a aucune concordance entre les départements. Donc, ce qui donne qu'actuellement, par exemple, il y a des départements qui vont valoriser plutôt l'évaluation sur un entretien social. Il y a des départements qui vont, elles, valoriser l'évaluation suivant les papiers d'identité de la personne. Et puis, certains départements ont encore recours aux tests osseux qui étant décriés par l'Ordre des médecins et également par l'UNICEF.
C'est-à-dire qu'en l'absence de papiers, certains départements se réfèrent à cette méthode qui consiste à analyser les os des individus, des
jeunes en question. C'est ça, avec une marge d'erreur reconnue par l'Ordre des médecins, qui est absolument gigantesque, qui peut atteindre... C'est-à-dire que plus la personne est rapprochée de la minorité, plus le test est peu fiable, en fait.
Peu fiable.
Voilà, C'est-à-dire que
Oui, entre 21 ans
voilà.
et 14 ans ou 15 ans, très bien. Il y a aussi la question du nombre d'enfants qui seraient aujourd'hui à Calais ou ailleurs. Est-ce qu'on a des chiffres? Est-ce qu'on a
Alors,
une idée un peu de...
actuellement à Calais, donc déjà pour revenir dessus, parce que on entend encore régulièrement que il y a plus de jungle à Calais, que le problème a été réglé
Les
depuis
campements,
l'expulsion.
Le gros campement a été
Les
démantelé en
campements,
2016.
les personnes sont actuellement, le nombre de personnes présentes est actuellement estimé entre 5 et 600 personnes, avec une centaine de mineurs en estimation encore, et ces personnes vivent dans des conditions absolument précaires. Elles sont dispersées un peu partout en dehors de la ville, ne possèdent pas d'abri, uniquement des tentes et des sacs de couchage quand elles en ont, et sont quotidiennement expulsées par les forces de police, interpellées, expulsées, mises en rétention, avec des tentatives de déportation régulières.
Alors, l'argument de l'État, celui du gouvernement, c'est de ne pas se laisser se recréer un bidonville dans les proportions de Sangatte, de la jungle, avec tout ce que ça impliquait aussi. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument?
Ben écoutez, cet argument, en fait, il tient pas la route. Enfin, la question est de savoir ce qu'ont fait ces personnes, puisque de fait, en fait, procéder à des expulsions ne résout pas le problème. Les personnes sont là, elles sont présentes, et actuellement, la réponse de l'État est uniquement autoritaire et répressive.
On va peut-être expliquer à nos auditeurs, elles sont présentes à Calais dans le nord de la France parce qu'il y a un accès, ou en tout cas espéré ou possible, vers l'Angleterre, qui a des
voilà,
conditions
c'est ça.
De,
oui, il y a un regroupement à
d'asile
Calais
et d'accueil
depuis plusieurs
plus
années,
facile.
Puisque beaucoup de ces personnes souhaitent rejoindre l'Angleterre.
Donc aujourd'hui, quelle serait la solution? Il y a eu des camps mis en place par des ONG avec à Petite Sainte et Grande Sainte, des villes du Dunkerquois, de cette région-là. Est-ce que c'est une solution?
Il faut que l'État réagisse, il faut que l'État prenne ses responsabilités et enraye un petit peu ces camps de fortune et délivre aux personnes des conditions de vie dignes en respect de la Convention.
Alors un mot tout de même sur la condition des femmes migrantes. C'est aujourd'hui la Journée internationale des droits des femmes. Est-ce que les femmes migrantes sont exposées à plus de problèmes que les hommes migrants?
Écoutez, au même titre que les mineurs isolés, les femmes sont des personnes particulièrement vulnérables. La prise de contact avec les femmes à Calais est vraiment compliquée, notamment dans des situations d'extrême précarité comme c'est le cas aujourd'hui. Mais bien sûr qu'elles sont elles sont présentes à Calais. Et leur parcours migratoire, de toute manière, globalement, est empreint de violence.
De violence sexuelle, notamment.
Notamment.
On le lit beaucoup, oui. Qu'est-ce que vous faites concrètement au quotidien pour apporter une aide juridique aux migrants?
Alors, la cabane juridique effectue des permanences juridiques 3 fois par semaine, des maraudes également pour informer les gens sur leurs droits et sur leur présence. Elle pratique aussi donc des recours en contentieux. Et puis, elle fait beaucoup d'observations en CRA, notamment les audiences des juges des libertés au CRA de Coquel, centre de rétention administrative, pardon. Donc le CRA de Coquel, dont on parle encore ce matin, la situation dans ce CRA est tout à fait problématique, elle est très violente. Encore récemment, il y a eu 3 tentatives de suicide dans l'espace d'une semaine, dont 2 de la même personne qui, à la suite de sa première tentative de suicide, a été prise en charge à l'hôpital de Calais. Et le médecin l'a fait renvoyer au CRA en notifiant que son état de santé n'était pas incompatible avec une rétention.